On va passer maintenant à l'apport de la loi pour le sport électronique. Dernier groupe d'étudiants, on va nous présenter l'apport de la loi au e-sport, aux compétitions de sport électronique. Donc il s'agit de M. Thomas Rouillet, Valentin Bourdary. Nous vous écoutons.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Thomas et moi-même allons aborder avec vous les apports de la loi pour une république numérique au e-sport, c'est-à-dire aux compétitions de jeux vidéo. Depuis quelques années, en parallèle du développement du marché du jeu vidéo, qui n'est pas si anodin puisqu'il s'agit de l'une des premières, si ce n'est de la première industrie culturelle mondiale. Donc on observe en parallèle de ce développement, le développement d'une pratique spécifique qui est la compétition de jeux vidéo, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Mais ces compétitions ont mis un certain temps avant d'être véritablement appréhendées par le droit. Nous allons voir ça plus en détail tout à l'heure. Alors, avant de discuter des différents apports de cette loi à l'e-sport, il nous semblait important d'introduire nos propos en vous parlant du contexte d'élaboration de cette loi, tant le contexte de fait que le contexte juridique qui entourait entourait ces compétitions de jeux vidéo, car elles ont tant influencé l'élaboration de la loi et inspiré le contenu des dispositions. Ensuite, nous verrons que la loi reconnaît officiellement l'organisation de ces compétitions. Et enfin, nous verrons qu'elle dote d'un statut spécifique les joueurs professionnels de jeux vidéo.
Pour commencer, il convient de définir ce qu'est un jeu vidéo. Donc avant de parvenir à la définition posée par le Code général des impôts, il y a eu de vifs débats jurisprudentiels et doctrinaux avant d'y parvenir, du fait de la complexité de cette œuvre. On constate que le jeu vidéo est avant tout pratiqué de manière ludique, notamment en France. Plus de la moitié de la population s'adonne à la pratique loisir du jeu vidéo, mais c'est également un secteur qui fait partie d'une grande économie. La France fait partie du top 10 mondial et on note une progression constante depuis 2014 qui doit continuer à croître de manière exponentielle. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas seulement le loisir. Depuis quelques années, comme l'a souligné Valentin, il y a également les compétitions de jeux vidéo. Par compétition, on entend la pratique du jeu vidéo de manière compétitive, donc avec à la clé une récompense, que ce soit en argent ou en goodies. Donc, on estime qu'il y a différentes catégories de jeux vidéo, non une seule, contrairement à ce que l'on peut penser. Tout d'abord, les plus connus, notamment en France, les simulations sportives à l'image de FIFA, par lesquelles un ou plusieurs joueurs s'affrontent grâce à des équipes pour remporter un match ou une compétition.
Ensuite, on a les jeux de stratégie en temps réel. L'exemple le plus parlant est StarCraft. Le joueur va contrôler plusieurs personnages, une armée souvent. Il va gérer et la constitution des unités, et la construction des bâtiments, et la collecte des différentes ressources. Le but étant de mettre en place une stratégie afin d'éliminer son adversaire qui est souvent composé d'une autre équipe de joueurs.
Ensuite, nous trouvons les arènes multijoueurs, dont le jeu le plus emblématique est League of Legends, par lequel le joueur contrôle un personnage avec des personnages qu'il assiste via l'ordinateur afin de remporter la partie face à un adversaire. Donc le but du jeu est de mettre en échec le ou les adversaires.
Ensuite, bien sûr, les simulations de combat, les jeux de combat, dont les plus connus sont Street Fighter ou ici à l'exemple Mortal Kombat. C'est très simple, on voit le personnage que l'on contrôle de côté. Le but étant de faire sortir son ou ses adversaires soit de l'arène, soit tout simplement de l'éliminer en faisant diminuer au minimum de la barre de vie.
Ensuite, on trouve les jeux de tir à la première personne, donc ce sont souvent des jeux de guerre, style Call of Duty. Le personnage là est contrôlé de manière subjective, on a une vue comme si on était le personnage, et le but là est de remporter une partie face à un ou plusieurs adversaires, que ce soit en solo ou en équipe. Le but est donc soit d'éliminer l'adversaire, soit de s'approprier un objet qui appartient à l'adversaire pour remporter la partie.
Enfin, on a les jeux de cartes à collectionner, aussi étrange que ça puisse paraître. Le plus pratiqué est Hearthstone. Le but est de composer un deck, donc les cartes que l'on a à notre disposition, qui ont chacun un effet de jeu et des pouvoirs, on va dire entre guillemets, Le but étant de mettre en place une stratégie pour soit contrer son adversaire, soit essayer de le toucher directement.
Et pour terminer, les jeux un peu plus connus peut-être, les jeux de danse avec Just Dance, où ici le joueur doit reproduire les mouvements qui sont affichés à l'écran pour établir une performance, soit il faut qu'il reproduise exactement les mêmes mouvements et dans le bon rythme.
En ce qui concerne la pratique compétitive en elle-même, celle-ci, elle existe depuis une dizaine d'années, depuis même une vingtaine d'années. Elle a commencé à se démocratiser depuis seulement le début des années 2000. Dans le monde, en 2015, on décompte pas moins de 32 millions de compétiteurs occasionnels pour 13 millions de compétiteurs réguliers. Et ceci, ces compétitions ont été regardées par plus de 250 millions de personnes. Quand on prend ce chiffre, on prend bien sûr les gens qui vont le voir en physique, dans la salle où se déroule la compétition, et également les gens qui le regardent sur Internet grâce au live stream. En France, particulièrement, on compte 850 000 compétiteurs occasionnels pour 400 000 compétiteurs réguliers. À titre de comparaison, c'est plus que la Fédération française de rugby. Moins que celle de golf, mais plus que celle de rugby. Et enfin, en France, on a, toujours en 2015, 4,5 millions de spectateurs occasionnels ou réguliers. Alors, il s'agit d'un marché en pleine expansion, puisque le jeu vidéo connaît une croissance sur la période de 2014-2015 de l'ordre de 30%, le jeu vidéo compétitif, excusez-moi. Et pour illustrer ceci, on voulait mettre en avant quelques chiffres. D'abord, les cash prizes. Thomas en a vaguement parlé tout à l'heure. Il s'agit de la récompense offerte aux gagnants. C'est composé souvent soit d'objets publicitaires, soit d'accessoires permettant de jouer, soit directement de sommes d'argent. Le montant total des cash prizes en 2014 était de 36 millions de dollars. Il est passé à 71 millions de dollars en 2015. C'est la même chose pour le nombre de compétitions organisées, qu'elles soient amateurs ou professionnelles. 400 000 compétitions ont été organisées en 2014 contre 700 000 en 2015. Alors ce phénomène, comme nous l'avons vu, la France n'y échappe pas. Alors, ce phénomène, la France n'y échappe pas. Est-ce que le droit l'appréhendait? Et si oui, comment? Comment est-ce que le droit appréhendait ces compétitions de jeux vidéo avant l'introduction de la loi pour une république numérique? Alors, pendant quelques années, la jurisprudence a rapproché ces compétitions des loteries interdites par l'article L322-1 du Code de la sécurité intérieure. La loi du 17 mars 2014 est venue modifier deux dispositions supplémentaires de cet article. Il faut savoir que ces modifications sont intervenues en réaction à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui refusait de faire entrer le poker dans le champ d'application de cet article parce que la dimension savoir-faire et la dimension savoir-faire du joueur prenaient le pas sur la dimension hasard au poker. Donc ils ont modifié deux dispositions du Code de la sécurité intérieure. Désormais, on peut retenir qu'un jeu est interdit même si la présence du hasard est infime et même si son fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur. Donc on retient que quatre conditions sont nécessaires à l'interdiction d'un jeu. Il faut que l'offre soit publique, ce qui est le cas des compétitions de jeux vidéo, puisqu'elles sont ouvertes, si ce n'est elles-mêmes, les qualifications à qui veut y participer. Ensuite, il faut qu'il y ait l'espérance d'un gain, ce qui est encore le cas, on a parlé il y a quelques instants des cash prizes. Ensuite, pour le sacrifice financier, pour participer à ces compétitions, c'est entendu de manière assez large, puisque l'achat du jeu ou encore le prix de la connexion Internet est entendu comme un sacrifice financier. Et enfin, la présence du hasard, même si elle est infime, est forcément présente dans une compétition de jeux vidéo. Donc, les compétitions rentraient bien dans le champ de ces interdictions des loteries. Pourtant, on l'a vu ensemble, des compétitions étaient déjà organisées. Comment est-ce que ça peut être possible? En réalité, elles étaient organisées sous une tolérance administrative, c'est-à-dire que ni les préfets, ni les procureurs n'intervenaient, tant que la compétition restait loyale. Le problème étant que il suffit qu'un joueur se plaigne de la loyauté de la compétition et pour qu'il risque de mettre à l'eau toute cette organisation et tout ce qu'ont mis en place les organisateurs. Du coup, il était absolument nécessaire, au vu de l'ampleur de ce phénomène, que la loi intervienne pour donner une sorte de cadre au développement de ces compétitions.
Donc après avoir examiné le contexte qui a amené la loi sur ce secteur, nous allons identifier les deux apports principaux qui se concrétisent par deux articles. Tout d'abord l'article 101, qui reconnaît officiellement les compétitions de jeux vidéo, par lesquelles on entend, bien entendu, autant les compétitions physiques, c'est-à-dire qui se déroulent dans des salles auxquelles les joueurs pratique la compétition devant une foule de spectateurs, autant que les compétitions en ligne qui peuvent se jouer chez soi, sur console ou sur PC, qui sont également autorisées par cet article. Nous le verrons un peu plus dans le détail. Et l'article 102 qui dote les joueurs professionnels, les e-sportifs professionnels, d'un statut social spécifique. Tout d'abord, l'article 101 qui reconnaît les compétitions en France. Cet article parle à la fois de compétition de jeux vidéo, donc il donne la définition. Une compétition de jeux vidéo confronte à partir d'un jeu vidéo au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. Donc, le texte de la loi parle de jeux vidéo compétitifs, de compétition de jeux vidéo. Il faut savoir que dans la pratique, le terme e-sport est plus employé, il est un peu moins juridique. Il renvoie à sport électronique, un terme qui peut paraître un peu plus flou pour les néophytes, puisque ça pourrait regrouper d'autres compétitions, comme on peut le souligner, notamment les compétitions de drones, qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Et nous, on proposerait plutôt de donner un terme un peu plus précis en utilisant le terme de sport numérique, peut-être qui rentrerait un peu mieux pour définir les compétitions de jeux vidéo. Et l'ambiguïté qui naît de cette définition, on la retrouve également dans la définition du sport en France qui n'est pas totalement posée, puisque le sport, dans la définition du sport, on parle à la fois de compétition et de manifestation, un problème que l'on rencontre également ici, où les deux termes se rapprochent et se complètent, bien que le terme de manifestation soit un peu plus large que le terme de compétition, puisque les manifestations regroupent également la dimension spectacle et show que la compétition ne regroupe pas. Donc, pour réglementer tout ça, il y avait une nécessité de rendre les compétitions équitables entre les joueurs, que les frais d'inscription soient égaux pour tous et que les qualifications se fassent dans les mêmes conditions pour tous, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Mais surtout, le principal apport de la loi, comme nous l'avons vu, du fait de la jurisprudence, était de différencier les compétitions de jeux vidéo des loteries. Pour ce faire, il fallait donc les différencier des loteries en démontrant que la part des joueurs, c'est-à-dire leur part d'interprétation et de jouabilité, était supérieure à la part du hasard sur le résultat. Et il était précisé que l'organisation des compétitions n'incluait pas les prises de paris. Or, il est avéré, depuis le 17 février, donc un peu moins d'une semaine, un partenariat qui vient d'être autorisé par l'État entre Webedia, une société de médias numériques, et la FDJ, qui est l'organisateur et qui détient le monopole en ce qui concerne les loteries en France, pour organiser des compétitions d'e-sport sur le territoire national de manière officielle, ce qui paraît un peu paradoxal au vu justement de l'article 101 et qui peut poser des problèmes à l'avenir. On est également toujours dans l'attente du décret d'application qui a été prévu pour février et qui prévoit notamment de fixer la part entre le rapport des frais d'inscription des joueurs et le financement total du coût de la manifestation, c'est-à-dire que le financement ne doit pas être couvert seulement par les frais d'inscription. Il faudrait, pour développer cette économie, il faudrait qu'il y ait également un investissement de sponsors, de diffuseurs, et également un investissement de la part des organisateurs. Donc, on le voit, la différenciation avec les loteries a pour but principal d'ouvrir la pratique aux mineurs. On le sait bien, la plupart des joueurs et des spectateurs de ce type de pratique sont des mineurs. Donc il était important de réglementer leur situation et la loi précise en son article 101 que le mineur, qu'il soit joueur ou spectateur, doit obtenir nécessairement une autorisation parentale afin de pouvoir participer à ces compétitions. Et les responsables légaux du mineur doivent également recevoir une information sur les enjeux financiers, comme nous l'avons précisé, puisque en cas de victoire ou de bons résultats, il peut y avoir des sommes importantes qui peuvent être remportées. Et également sur les supports utilisés, et ce qui nous amène à poser une question sur la pertinence de la classification PEGI, donc des pictogrammes que l'on trouve sur les supports de jeux vidéo, puisqu'il est possible pour des mineurs de 14 ou 15 ans, qui sont déjà professionnels selon leur niveau, de participer à des compétitions de jeux vidéo tout en jouant à un jeu qui est interdit au moins de 18 ans et au moins de 16 ans. Et cela en toute légalité. Donc ça pose certaines questions par rapport à ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Valentin sur l'article 102.
Alors cet article 102, qui dote le joueur professionnel d'un statut social spécifique, pose tout d'abord une définition de ce qu'est un joueur professionnel de jeux vidéo. Alors un joueur professionnel de jeux vidéo participe à des compétitions de jeux vidéo. Il est rémunéré pour cette activité. L'association, il faut qu'il existe un lien de subordination juridique entre ce joueur et l'association ou la société qu'il emploie. Et enfin, il faut que cette association reçoive un agrément du ministre chargé du numérique. Quand on voit cette définition, on se rend vite compte qu'en fait, c'est un parfait calque de la définition du sportif, en adaptant simplement les termes aux spécificités du secteur du jeu vidéo et de l'e-sport. Ensuite, comme un sportif, le joueur professionnel de jeu vidéo sera forcément dans une situation de salariat. En effet, la loi pour une république numérique crée un CDD spécifique dérogatoire, calqué sur le modèle des CDD des sportifs professionnels. Alors au début des années 2010, la jurisprudence avait tendance à requalifier la succession de CDD des sportifs professionnels, notamment des footballeurs, en CDI, ce qui fragilisait le secteur puisqu'il fonctionne sur le système des transferts qui est rendu impossible par une requalification des contrats en CDI. Donc la loi du 27 novembre 2015 est venue créer la loi qui est relative à la protection des sportifs de haut niveau est venue créer un CDD spécifique dérogatoire basé sur une saison sportive et empêchant une éventuelle requalification de ces CDI. Alors en fait, le CDI proposé aux joueurs de jeux vidéo est exactement basé sur le même modèle et repose sur ce modèle des contrats proposés aux sportifs professionnels, puisque le contrat ne devra être d'une durée maximale de 5 ans, d'une durée minimale d'un an, avec une dérogation, un contrat de 6 mois pour être signé avec un joueur en cours des saisons, si c'est pour remplacer un ancien joueur, et si ça dure jusqu'au terme de la saison. Ensuite, donc ceci va permettre tout simplement une succession de CDD entre le e-sportif et l'association qui l'emploie. Mais ce contrat est aussi fait dans une logique de protection des joueurs, puisque, comme on le voit à l'écran, les clauses de rupture unilatérale seront prohibées et donc nulles et sans effet, ce qui empêchera le joueur de se voir licencié pour mauvais résultats, par exemple. Et toujours dans le même sens, les conditions de préparation du joueur, des différents joueurs membres de l'association qui les emploie doivent être semblables et donc similaires. Et enfin, si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat se verra requalifié en CDI, ce qui permettra aux joueurs donc, de bénéficier d'une indemnité de licenciement relative donc, à la qualification de tel contrat.
Pour conclure, donc, on comprend la nécessité de la loi de sécuriser à la fois les manifestations physique et de sécuriser les e-sportifs professionnels en les dotant d'un CDD spécifique. Pour y parvenir, il était légitime de s'inspirer du sportif professionnel, puisque le sport professionnel est un secteur relativement similaire à l'e-sport, notamment du fait de son modèle économique, des acteurs qui sont présents, des diffuseurs, du système des transferts. Il y avait des légitimités à s'inspirer de ce modèle. Mais il y a également les mêmes risques qui sont attachés principalement à la valorisation économique des contrats des joueurs. Mais on peut également se poser des questions sur les imperfections de ce statut, qui n'est pas totalement spécifique puisque calqué déjà sur un modèle existant, qui peut ne pas totalement résorber l'insécurité juridique qui préfigurait avant l'adoption de ce statut, du fait de l'évolution qui peut amener à venir dans le secteur des jeux vidéo, notamment du fait de la technologie et de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Et notamment, on l'a vu, calquer un CDD unique, un statut unique pour un ensemble de catégories, alors qu'on l'a vu, une diversité de supports et de jeux totalement différentes qui engagent le joueur de façon totalement différente, peut apparaître inapproprié quand on compare par exemple un jeu de danse déjà beaucoup plus évolué dans la manière de l'interpréter d'un jeu de simulation sportive par exemple. En vous remerciant pour votre attention.
Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Encore un point très intéressant de la loi qui tient sur deux articles mais qui pourtant intéresse toute une communauté de personnes et de nouveaux professionnels. J'ai vu d'ailleurs il y a quelques jours qu'une école de e-sportif avait été créée, je crois la e-sport Academy. Voilà, donc pour former des futurs joueurs professionnels. Donc peut-être qu'on pourrait les voir pour faire des tables rondes avec eux aussi, une table ronde virtuelle dans des espaces numériques, ça devrait être intéressant.